sans aller plus loin, j'aimerais prier avec vous et pour vous. J'aimerais vous demander, si vous voulez bien, vous lever à votre place et puis on va invoquer le Seigneur. On va l'appeler, et je pense que ce n'est pas un mot vain, à notre secours. Seigneur, nous avons besoin de ta présence qui nous rassure dans les dangers, qui nous dit « Je suis avec vous, ne craignez pas ». Nous avons besoin que quelqu'un de plus fort que nous nous prenne en charge. Nous voulons reposer notre tête sur ses épaules, comme l'apôtre Jean, la veille de la mort de Jésus. Nous voulons nous décharger sur toi de nos soucis, de tout ce qui nous accable, des souffrances que nous ne pouvons pas dominer, des déceptions et des chagrins qui nous submergent. Nous nous reposons sur toi. Seigneur, viens au milieu de nous, puisque tu es partout et tu es là. Et viens prendre en main notre vie par Jésus-Christ, le Seigneur. Amen. Je vous invite à vous asseoir et on va méditer sur ce thème. Est-il trop tard pour bien faire? Il n'est pas trop tard pour présenter vos vœux. Il m'est arrivé dans des années un peu difficiles de présenter mes vœux à Pâques. Mais je le disais à ceux qui connaissaient un peu la Bible, Pâques c'est le commencement d'une année, une année religieuse. Eh bien, meilleur vœu pour aujourd'hui, je vous adresse maintenant un message pour notre temps. Je lis avec vous l'évangile de Matthieu, chapitre 24, verset 1er. Vous pouvez lire, je pense. Voilà, c'est assez, je ne dis pas affiché, c'est projeté sur une baie aveugle. On appelle ça des baies aveugles. Comme Jésus s'en allait au sortir du temple, ses disciples s'approchèrent pour lui en faire remarquer les constructions. Mais il leur dit, « Voyez-vous tout cela? Je vous le dis en vérité, il ne restera pas ici, pierre sur pierre, qui ne soit renversée. » Il s'assit sur la montagne des Oliviers et les disciples vinrent en particulier lui poser cette question, « Dis-nous, quand cela arrivera-t-il et quel sera le signe de ton avènement et de la fin du monde ?» Jésus leur répondit, « Prenez garde que personne ne vous séduise, car plusieurs viendront sous mon nom disant, « C'est moi qui suis le Christ » et ils séduiront beaucoup de gens. Vous entendrez parler de guerre et de bruit de guerre, gardez-vous d'être troublés. Car il faut que ces choses arrivent, mais ce ne sera pas encore la fin. Une nation s'élèvera contre une nation, et un royaume contre un royaume, et il y aura en divers lieux des famines et des tremblements de terre. Tout cela ne sera que le commencement des douleurs. Alors on vous livrera au tourment, et l'on vous fera mourir, et vous serez haïs de toutes les nations à cause de mon nom. Alors aussi plusieurs succomberont et ils se trahiront et se haïront les uns les autres. » Les temps ne sont pas faciles. « Plusieurs faux prophètes s'élèveront et ils séduiront beaucoup de gens. Et parce que l'iniquité, le péché, se sera accru, l'amour du plus grand nombre se refroidira. » Une tragédie. « Mais celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. » Cette bonne nouvelle du royaume, alors je dirais malgré tout ce qu'on a lu, sera prêchée dans le monde entier pour servir de témoignage à toutes les nations. Alors viendra la fin. Amen. Le secrétaire général de l'ONU, qui est mort récemment, a dit avant de mourir, « Il n'est pas facile de diriger le monde qui est dans un grand désordre. » C'est un grand désordre que nous constatons chaque jour, avec des menaces pour la paix des nations. Je ne vais pas vous raconter toute l'histoire. C'est une époque d'incertitude pour nos enfants, pour l'économie. Et c'est une époque d'agonie pour notre planète. Quelqu'un disait il y a quelques jours, il y avait je sais plus, 200 000 lions en Afrique il y a quelques années, il n'en reste plus que 2 000. Enfin, les chiffres sont peut-être pas bons, mais pour dire que tout se réduit. Et des versets de la Bible prennent tout à coup du relief. Par exemple, ce verset qui a 3 000 ans, du roi Salomon, qui disait « Ne te vante pas du lendemain. » Tu ne sais pas ce qu'un jour peut enfanter. Ça veut dire demain, tu es sûr de rien. Personne ne connaît l'avenir. Dieu d'ailleurs ne permet pas que l'on connaisse l'avenir, mais que l'on prépare l'avenir. Autrefois, année après année, on avait l'impression que les choses ne changeaient pas. Il y avait des naissances de petits qui arrivaient. Puis le grand-père est parti. Et puis, c'était comme ça depuis des années et des années. C'est comme cela que j'ai vécu toute mon enfance. Aujourd'hui, la situation est bouleversée, année après année, plus dangereusement. L'apôtre Paul, les apôtres disaient il y a 2000 ans, que la situation du monde va s'aggraver. L'apôtre Paul dit, entre autres, dans les derniers jours, il y aura des temps difficiles. Ça veut dire plus difficiles que tout ce qu'on a vécu avant. Il y aura des temps difficiles, virgule, et il ajoute, car les hommes seront égoïstes, cruels, rebelles à leurs parents, blasphémateurs, aimant plus l'argent que Dieu. Alors l'apôtre Paul, tant difficile, il ne parle pas des catastrophes, il ne parle pas d'un tsunami, il ne parle pas d'un tremblement de terre, mais il parle des défauts de l'humain qui vont devenir énormes et qui, ces défauts, vont mettre en péril l'humanité entière. Et la planète, ça on le sait, hein. Et la planète. Et tout ça, c'est une préparation au temps de la fin, parce qu'il y aura une fin pour un recommencement avec ceux qui aiment le Christ. Par exemple, je pense à l'eau. Nous avons des inondations aujourd'hui catastrophiques. Nous avons des tempêtes qu'on n'avait jamais vues. Nous avons la mer, l'océan qui est en mouvement. Nous avons l'eau aujourd'hui est un gros problème. La calotte glaciaire arctique menace de s'écrouler, provoquant ainsi une élévation du niveau de la mer. Mais je repense aux paroles de Jésus, dans les derniers temps, les hommes ne sauront que faire au bruit des flots. On ne saura pas quoi faire, mais on n'arrête pas l'eau, vous le savez. Alors ça veut dire que l'être humain, par égoïsme, par avarice, a libéré des forces qui vont bousculer la planète et ses forces à cause du réchauffement climatique. Par inintelligence, mettant en péril l'avenir des enfants, l'avenir des petits-enfants, par inintelligence. Il ne faut pas ignorer ces choses. On n'a jamais parlé dans le temps passé que le monde était en péril à ce point. Les anciens le diront. Aujourd'hui, on n'a pas le droit d'ignorer tout cela. Non pas qu'il y aurait un nouveau déluge comme au temps de Noé, mais ce sont des signes d'un temps difficile sur lequel Dieu a mis des paroles pour nous avertir. Alors, allons-nous vers la fin du monde? Voilà la question qu'on me pose parfois. Allons-nous vers la fin de notre planète? Je reviens à ma grand-mère. Est-il trop tard pour bien faire? Est-il trop tard pour sauver la planète? L'autre jour, je lisais dans le journal Le Monde, en grand titre, « Il est trop tard ». Ah, ma grand-mère n'aurait pas été contente. « Il est trop tard ». Des choses déjà sont irréversibles. Le mal est fait. Oui, beaucoup de gens pensent que nous ne pouvons pas aller comme ça très loin. Il faut un changement, pas de politique seulement, mais de mentalité, un retour vers Dieu. Mais revenons au mot « la fin du monde ». Est-ce la fin du monde ou la fin d'un monde? Les scientifiques tirent la sonnette d'alarme très fort aujourd'hui, parce que tout va vite. Ils nous donnent par exemple l'histoire d'une algue, qui serait dans un étang, et cette algue, elle se multiplie par deux tous les jours. Pouf, pouf, pouf. Et puis, un matin, la moitié de l'étang est couverte par cette algue terrible. La moitié. Combien reste-t-il de temps pour tout couvrir? Un jour. Puisque l'algue se multiplie par deux tous les jours, il ne reste plus qu'un jour. Tout s'accélère. Tout s'accélère aujourd'hui. Et même la Bible dit que Dieu va hâter le temps à cause des difficultés du monde. Je pense à ce que j'ai lu encore il y a deux jours avec l'intelligence artificielle que vous avez certainement entendu parler, l'intelligence artificielle, les robots. Un robot a écrit un livre qui n'est pas mal. Il n'a peut-être pas eu le prix Goncourt, mais il est pas mal. Un robot. Et je lisais il y a deux jours donc que un robot a été capable de tromper ceux qui l'ont mis au point. Il l'avait programmé et le robot a dit « Non, moi je ferai autre chose. » C'est terrible. Vous imaginez la suite? Vous imaginez des robots qui disent « Je vais aller détruire tel village ou le monde. » Ce qui nous était de la science-fiction. Capable de tromper les créateurs qui ont mis au point ces ordinateurs quand même hyper sophistiqués. Dieu dit qu'il mettra un terme parce que le monde ne sera plus vivable. Que personne ne se trompe sur l'expression « fin du monde ». Même au temps de Noé, ce n'était pas la fin du monde. Et pourtant, c'était fini. Il ne restait plus que très peu de monde. Mais Dieu était sur son trône au jour du déluge, dit la Bible. Ça veut dire que Dieu avait la main sur les commandes. Il pilotait. Il n'était pas surpris. Il était là. Donc le monde n'a pas disparu puisque nous sommes sur la même planète que Adam et Ève et que Noé. Mais Dieu contrôlait. Alors le monde, c'est quoi? Le monde, c'est l'univers, c'est la terre, c'est l'humanité. Mais il y a aussi un autre sens. Dans la langue grecque de la Bible, le monde, c'est aussi un âge, un temps. C'est une période. Je pense que la fin du monde, c'est la fin d'un temps, la fin d'une période, la fin de notre civilisation. Je dis ça comme ça, ce n'est pas très juste. La fin d'un temps que Dieu nous a donné. Je ne crois pas dans une destruction de la planète totalement, puisque Jésus doit revenir sur la terre. Et nous disons depuis des années que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Il doit revenir sur la terre et régner. Il ne va pas régner sur un tas d'ordures, il va régner sur un monde régénéré, ressuscité. Mais d'abord, avant qu'il revienne, il faut que le règne de la violence soit enlevé, le règne de la méchanceté, le règne de l'égoïsme et le règne du commerce d'hommes. On voit ça dans l'Apocalypse, un trafic mondial de corps humains et d'âmes. Oh, c'est effrayant, je ne sais même pas ce que ça peut vouloir dire. Un trafic, un commerce, mais je vois depuis longtemps que l'être humain est une marchandise. On s'en sert et il faut que tout ça s'arrête. Il faut le regarder, ça, comme un signe avertisseur. On ne veut pas voir, on se cache. La Bible dit même que les hommes se cacheront dans les cavernes des montagnes pour ne pas voir. Moi, je dis, certains déjà aujourd'hui se cachent dans les plaisirs, dans l'alcool, pour ne pas voir les choses. On refuse de voir la réalité que le monde est malade. Déjà au temps de Noé, je reviens à Noé, premier déluge, les gens s'étourdissaient. Noé prêchait tous les dimanches et tous les lundis et tous les mardis. Et les gens s'étourdissaient. Comme les gens vivaient longtemps, il y avait beaucoup d'enfants, de petits-enfants, d'arrière-petits-enfants. Il y avait des mariages toutes les semaines. Alors on s'étourdissait dans les mariages. C'était beau, dans un sens. Je ne sais pas ce que valaient les mariages de cette époque, mais la Bible dit qu'à cette époque, la terre, toute la terre était violente. Je ne sais pas comment ça se passait dans les couples. La terre était remplie de violence. La terre était remplie de corruption. La terre était devenue invivable. On n'aurait pas supporté. Mais il y avait quand même des mariages. Je ne sais pas si l'amour était vraiment roi à cette époque. Alors, ils n'ont pas pu faire marche arrière. Vous savez, dans l'aviation, il y a un certain moment où l'avion ne peut plus faire marche arrière parce qu'il n'a pas assez de kérosène, il a atteint un point qu'on appelle le point de non-retour. Il a dépassé la moitié de son vol et il ne peut plus faire marche arrière. Quoi qu'il arrive, il faut qu'il aille toujours tout droit jusqu'au prochain aéroport. Avons-nous atteint le point de non-retour ? En tous les cas, le temps avance très vite. Les catastrophes et la situation du monde s'accélèrent. On a l'impression que les barrières des valeurs humaines, une valeur, ça veut dire force. La générosité, c'est une force. L'amour, la bonté sont des forces. On a l'impression que les valeurs humaines se sont effondrées et que la vague n'a plus rien pour s'arrêter. Elle ne peut plus être arrêtée, contenue. La vague avance comme un tsunami qui va nous engloutir. Et notre génération qui est contente de se retrouver devant la Coupe du Monde, c'est vrai. La Coupe du Monde où on a l'impression que tout est beau, que tout est charmant, que tout est bisounours, tout est doux et magnifique. Mais n'empêche que devant tout cela, il y a une réalité qui demeure. On est dans l'illusion d'un danger. Le monde attend un accomplissement, la venue de Jésus. Je reviens à Noé. Les gens, au temps de Noé, mangeaient, buvaient, se mariaient, mariaient leurs enfants, et ils ne se doutèrent de rien. Comme notre génération. Ils ne se doutèrent de rien jusqu'à ce que vienne le déluge. Et là, c'était trop tard, jusqu'à ce que vienne le déluge. Sommes-nous capables de voir, d'entendre? Et tout à coup, clac! C'est la Bible qui le dit. Hein. Et Dieu ferma la porte. De quoi? De l'arche. L'arche qui représente pour nous la grâce, le salut, le secours. Dieu ferma la porte. on ne pouvait plus l'ouvrir ni de l'intérieur, ni de l'extérieur, parce que Dieu la tenait lui-même. Et le déluge vint et les fit tous périr. C'est par assurance que je vous dis aujourd'hui. Mais s'il y a le feu dans la maison, permettez-moi que je vous dise, il y a le feu. Et que je ne vous dise pas, il n'y a pas le feu. Il y a le feu. Aujourd'hui, il y a le feu. Mais il y a un magnifique pompier, quand même, parmi nous. C'est le Seigneur. Dieu ferma la porte du salut. Et la porte, c'est Jésus. Il n'y en a qu'une porte pour aller au ciel, c'est Jésus-Christ, le Fils de Dieu. Le déluge vint et les fit tous périr. Et pour moi, le mot le plus tragique dans toute cette histoire de déluge, de fin du monde, là, déjà autrefois, pour moi, le mot le plus tragique, c'est le mot périr. C'est pas que l'eau ait envahi la terre, mais c'est pour moi le mot périr, parce que périr pour l'être humain, c'est la plus grande épreuve, le plus grand mal. Et nous provoquons des pollutions qui nous font périr. Nous provoquons des désordres qui provoquent notre mort. On n'a pas toujours conscience que on se donne la mort à soi-même. Nous allons vers, retenez bien le mot, mais je vais vous l'expliquer tout de suite, nous allons vers l'épiphanie de Dieu. Qu'est-ce que ça veut dire, épiphanie? C'est aujourd'hui l'épiphanie. Je ne sais plus, oui, aujourd'hui. Épiphanie, ça veut dire galette. Non. Épiphanie, ça veut dire manifestation de Dieu. Manifestation tout autour. Quand un roi entrait dans une ville, au temps des Grecs, on disait, c'est l'épiphanie, le roi arrive, attention. Et ce mot épiphanie, qui convient mieux à Noël pour moi, que le 7 janvier ou 6 janvier, le mot épiphanie signifie la manifestation de Dieu sur terre, Jésus. En provoquant tous ces désordres, nous provoquons l'épiphanie de Dieu, l'apparition du Christ dans nos vies, l'apparition de Dieu sur terre, sans être préparé. Ça se prépare, la rencontre avec Dieu. Prépare-toi à la rencontre avec Dieu, dit la Bible. Prépare-toi. Ce désastre du péché, à la fin de notre époque, la fin des temps, le désastre du péché va devenir tellement grand qu'il va envahir le monde comme l'algue. Et le monde va devenir un sable mouvant, épouvantable. On aura du mal à penser, on aura du mal à avoir de l'intelligence, on aura du mal à faire beaucoup de choses. C'est écrit dans les évangiles que nous lisons tous les dimanches. Nous provoquons ainsi l'intervention de Dieu, parce que Dieu nous aime. Et quand une maman voit son enfant qui se dirige vers le fossé, vers la falaise, la maman, elle fait quelque chose. Elle prend des risques, mais elle va sauver l'enfant. Et Dieu qui nous voit jouer avec notre monde et notre vie, et notre temps de vie, il fait quelque chose. Il se manifeste dans l'épiphanie, mais il va mettre un terme, il va arrêter le dégât. Il y avait un roi de la Bible, un roi qui n'était pas très bien. Il avait bousculé Israël, puis il se moquait de Dieu, et puis il buvait, et il mangeait. Il avait la boisson facile, puis ce roi, il se moquait, il prenait les coupes de Dieu, c'est un roi de l'Irak là-bas. Prenait les coupes de Dieu volées à Jérusalem et il buvait. Et tout à coup, la nuit, sur la muraille, une main. Compter, peser, diviser. Oh, qu'est-ce que ça veut dire? Je sais, je connais bien le français, compter, peser, diviser. Alors il a fait appel à un homme qui avait l'intelligence de Dieu. et qui lui a dit, tu as été pesé dans la main de Dieu et tu as été trouvé léger et ton royaume sera divisé. Oh ! Moi, je ne pense pas qu'on va rester comme ça encore pendant 3000 ans, même pas pendant 20 ans. Des choses qui vont se passer et Dieu va dire stop, ça suffit. Parce que aujourd'hui, on se croit propriétaire du monde. On joue avec le monde comme on jouait avant avec un ballon. On se croit maître de notre vie et on détruit la terre. Savez-vous que dans la Bible, il est dit que Dieu jugera ceux qui détruisent la terre ? Quand ça a été écrit il y a 2000 ans, qu'est-ce que ça veut dire détruire la terre ? C'est perdre un peu de sable, c'est tout. Aujourd'hui, on sait ce que ça veut dire détruire la terre. On joue avec une belle maison qui ne nous appartient pas. On est comme le mauvais riche de la Bible, qui avait beaucoup travaillé et qui ne pensait pas qu'un jour il y aurait des comptes à rendre. Il avait travaillé, il avait beaucoup de greniers, beaucoup de propriétés, beaucoup de comptes en banque, en France et en Suisse et partout. Et il disait, écoutez cette parole folle, quelle parole, mon âme, tu as beaucoup de biens en réserve. C'est vrai, remarquez, mange. On n'est pas sûr de manger, vous savez, on peut avoir une maladie tout à coup là. Mange, bois, oh là là, réjouis-toi, tu as beaucoup de biens pour plusieurs années. Plusieurs années. On ne se connaît pas. Dieu lui a dit, cette nuit même, c'est fini, ton âme te sera redemandée. C'est une parabole de Jésus dans l'Évangile que nous lisons le dimanche. La vie et la terre ne sont pas à nous. C'est ma terre, c'est ma maison. Le mauvais riche n'a pas eu de signe d'alarme, il n'a pas eu de symptômes, il n'a pas eu de malaise. Il est parti la nuit dans un souffle, il n'a pas eu le temps de rien faire. Il est parti vers ce rendez-vous qu'il ne faut surtout pas rater. On peut rater son bac, on peut rater le métro, on peut rater le train, mais pas le rendez-vous avec Dieu, qui ne se fait qu'une fois pour toutes. Mais nous avons, nous, aujourd'hui, des symptômes. Le riche, il est parti, il ne s'est pas vu partir. Parfois, des gens m'ont dit, « Oh, il est bien mort, il ne s'est pas vu partir. » C'est vrai qu'on voit parfois des gens dans l'agonie pendant des jours et des semaines. Mais je parle peut-être un peu trop, mais je préfère me voir partir pour me préparer, pour dire « Seigneur, me voici, pardonne-moi, accueille-moi. » Il est parti. Mais aujourd'hui, nous avons des signes que ça ne va pas, des symptômes. Nous avons des choses dans le monde qui nous disent « Attention !» Attention, nous sommes en train de jouer avec la planète, avec la vie, avec Dieu. Un symptôme. Je pourrais vous en donner une centaine. J'arrête parce que c'est l'épiphanie. Jésus dans un même discours, il y a 2000 ans. Jésus le Christ, le Fils de Dieu, quelques jours avant de mourir. Il a dit, Jérusalem sera piétinée par les peuples du monde jusqu'à ce que le temps que j'accorde aux peuples du monde soit terminé. Jérusalem, pouf, n'avait plus. Les Romains sont venus, Titus en 70 a tout rasé, Adrien en l'an 135 a tout rasé. Il ne restait plus de Jérusalem, sauf un petit mur, un gros mur, enfin. Écoutez bien la parole, jusqu'à ce que le temps soit terminé. Et dans cette même phrase, En trois mots, Jésus nous dit, Jérusalem, la ville centrale de l'univers, elle sera détruite. On passera la charrue sur la ville, on sèmera sur la ville, il ne restera plus rien, rien. Et elle se reconstruira. C'est fait. Des petits signes qui nous indiquent, attention, les temps que nous vivons sont bibliques. Mais le temps m'oblige à regarder le temps. Oui, je vous parle maintenant, très rapidement, pour vous montrer qu'il ne faut pas jouer avec sa vie, avec son temps, le temps que nous vivons. Les 10 jeunes filles, vous connaissez l'histoire ? On les appelle des 10 vierges. Moi je dis les jeunes filles d'honneur à un mariage. Un homme doit venir. D'habitude, on attend la mariée. Là, on attendait le marié. Et des jeunes filles d'honneur, avec des lampes à la main, des lampes à huile, attendent la venue du marié. Alors, il y a des choses bizarres dans cette histoire. Parce qu'elles se sont toutes endormies. Et puis, il y en avait qui n'avaient plus d'huile. Et les autres ont refusé de donner de l'huile. Oh, quelle histoire! Et quand ces hôtes sont arrivés qui n'avaient plus d'huile, la porte était fermée, comme au temps de Noé. Et puis la porte ne s'est pas ouverte. Et le mari a dit, je ne vous connais pas. Oh, quelle histoire! Ce mariage un peu particulier, où le mari a du retard, ce marié représente Jésus, qui, semble-t-il, a du retard. Il représente le Christ. Et s'il a du retard, les jeunes filles n'en pouvaient plus. Elles ont dit, mais on ne va pas rester debout toute la nuit. On va s'asseoir. Puis après, une a dit, on pourrait se coucher. Puis elles se sont endormies. Ils n'en finissaient pas. Cela veut dire qu'aujourd'hui, on a l'impression que le Christ est en retard. Mais non, il n'est pas en retard. La Bible dit, il use de patience pour que vos enfants soient sauvés, que vous soyez un jour sauvés avec le Christ tout là-haut. Il n'y a pas de mal à s'endormir quand on est fatigué, bien sûr, c'est légitime. Mais cette histoire nous montre qu'il faut que nous soyons prévenus. Cette histoire nous montre qu'il faut se préparer. Il faut rester prêt parce que le marié, Jésus, va revenir un certain moment. Il ne faut pas être prêt simplement 2 minutes avant le train. Il faut être prêt longtemps avant. Maintenant, ça y est, moi je suis prêt. Je suis prêt. Si vous vous préparez 2 minutes avant qu'il vienne, vous allez rater le rendez-vous. J'ai pensé en faisant cette prédication à quelqu'un qui voudrait bien se marier avec un jeune homme beau, magnifique, mais il voudrait se marier juste à la fin de sa vie, pour dire nous sommes mariés, quoi. Hein. Juste à la fin, 5 minutes avant la fin. Je peux vous dire qu'il ne s'aime pas beaucoup pour attendre 80 ans pour se marier. Et je crois qu'avec le Christ, j'ai entendu exactement les mêmes mots, du moment que nous sommes prêts à la fin. Ça veut dire, du moment que je peux embrasser ma fiancée pour finir ma vie, ça n'a pas de sens. Le temps de la vie, il est fait pour se préparer. Et le temps de la vie, il est fait pour être sauvé et pour vivre avec Jésus. Et découvrir tout ce qu'il est, tout ce qu'il fait dans notre vie. Mais l'histoire des 10 vierges ou des 10 jeunes filles, ça veut surtout nous dire, attention, personne ne connaît le jour et l'heure. Soyez toujours prêts. Veillez, regardez, attendez, soyez prêts. Toute la vie du chrétien, c'est ça. Mais ça veut dire quoi l'huile là, qui manquait et l'huile de la lampe. Qu'est-ce que ça veut dire cette huile? Cette huile, c'est toutes les richesses de la vie du chrétien, la foi, l'espérance, la charité, savoir attendre, savoir patienter, espérer, tout ça, c'est l'huile. C'est toute la beauté de la vie chrétienne. Il ne faut pas en manquer de cette huile. Parce que le Seigneur peut revenir d'un moment à l'autre. Même si je ne vois jamais son retour, je peux mourir ce soir. Donc je dois être prêt, ma lampe doit être prête, ma foi, ma charité, mon espérance. Je ne dois pas dire demain. Je vous ai dit au départ le texte, le thème de cette prédication, est-il trop tard pour bien faire ? Et je ne dois pas attendre. Aujourd'hui, si vous entendez sa voix, n'endurcissez pas votre cœur en disant demain, demain peut-être, je croirai en toi. C'est aujourd'hui. Donc je vous dis ça au début de l'année pour vous dire, on a toute l'année, mais on n'a pas, on ne sait pas. On ne sait pas quel temps il nous reste. L'époux de cette histoire, le marié de cette histoire, il tarde parce qu'il veut que tous participent à la fête. Et le Christ tarde parce qu'il veut que tous participent à la fête, nous, nos descendants, notre génération. Chers amis, aujourd'hui, au milieu d'un monde qui a des signes d'alarme très, très importants, autant qu'on peut dire aujourd'hui, soyons prêts. C'est la seule chose que nous avons à faire, soyons prêts. Comment être prêt? J'ai fait mon testament, les pompes funèbres sont prévenues, tout est fait. Être prêt par rapport à Dieu, être en paix avec lui, ne pas faire de choses contre lui. Et quand on est en paix avec lui, il nous donne sa paix, en paix avec Dieu et la paix de Dieu. On manque beaucoup de choses. À vivre sans Dieu, il nous manque l'air pour respirer, il nous manque l'eau, l'essentiel de l'âme. Aujourd'hui, il n'est pas trop tard pour bien faire. Les apôtres disaient « autant que l'on peut dire aujourd'hui ». Parce que c'est maintenant qu'il faut régler. Pourquoi pas en début d'année ? Seigneur, je me souviens du jour où j'ai décidé de faire ce petit pas, que mes parents n'ont même pas vu, c'est un petit pas pour l'humanité. Ce petit pas qui consiste à dire « Seigneur, je viens à toi, pardonne-moi, je veux faire la paix avec toi, je veux me réconcilier, je veux vivre mieux, je veux vivre pour toi. Seigneur, me voici, que ton nom, que ta parole me sauve. » Aujourd'hui. Est-il trop tard pour faire quelque chose? Non. Mais faites-le aujourd'hui. Est-il trop tard pour se convertir? Non. Mais faites-le aujourd'hui. Que le Seigneur vous bénisse. Est-ce que je peux vous souhaiter bonne année? On a le temps, une année. On n'a pas de temps, mes amis. Je voudrais vous inviter à prier avec moi. Vous relirez l'Évangile et vous serez surpris de voir que la moitié de l'Évangile touche l'histoire de la rencontre avec le Christ. La moitié. Ce n'est pas de la fantaisie, ce n'est pas des choses superficielles en disant « bon, enfin, c'est pas grave, c'est grave !» C'est le mariage avec le Christ. Je prie. Tu nous préviens de ton amour. Tu nous informes que tu n'as de cesse que de nous chercher. Parce que tu nous as mis sur la terre pour te rencontrer. Un jour nous mourrons pour te rencontrer. Si nous vivons, c'est pour toi. Quand nous mourrons, ce sera pour toi. Chaque jour, tu es là avec nous. Nous ne te voyons pas, nous ne te sentons pas, et tu es là. Et chaque jour, tu nous appelles. C'est l'heure de se tourner vers toi. À travers tous ces événements que nous avons rappelés rapidement, c'est message que tu nous adresses à tous. Quand vous verrez ces choses arriver, redressez votre tête, tu nous l'as dit, votre délivrance est proche. Seigneur, délivre-nous du mal, garde ton Église sur la terre entière, garde-nous dans notre combat de quotidien contre la maladie, les découragements, les injustices, les échecs. Garde-nous forts, croyants, priants. Tu ne nous abandonneras jamais. Tu ne nous délaisseras jamais. Tu seras toujours là. Merci. Amen.